Madame, Mademoiselle, Monsieur, au Vidéolandia de la semaine du samedi 6 juin 2020. Le numéro 23 pour le 6 du 6e mois. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, notre invité, M. Michel Labrèche, auteur conférencier en chassé-croisé avec les propos de Bernard de Montréal, publié en 1982, sur le thème « Le supramental ». Une version d'une heure et plus est aussi disponible pour les abonnés du Club Créé. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant, la version MP3 audio par Jean-François Poulin, tous les deux dans le forum Morandia. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Eh bien, cette semaine, c'est un peu le prolongement des 3-4 dernières semaines où on a fait sauver de telle ou telle manière par la connaissance, par l'expérience, la souveraineté sauvée. Eh bien, j'ai pensé cette semaine vous présenter quelqu'un qu'on a vu il y a quelques temps seulement, mais qui avait été enregistré au mois de février, alors qu'à cause de le confinement, on ne l'avait pas vu avant le milieu du mois de avril, même début mai. Il s'agit de M. Michel Labrèche. Vous vous souvenez, celui qui nous a présenté cette encyclopédie, j'allais dire une encyclopédie parce que, tu sais, quand tu es rendu à 22 livres ou 8 volumes, c'est du matériel tout ésotérique, j'oserais dire de cette façon-là, parce qu'il aborde tous les sujets qu'on connaît en ésotérisme. Et là, aujourd'hui, on va faire presque une confrontation avec M. Michel Labrèche, l'auteur de cette série, et Bernard de Montréal. Pourquoi? Parce que les deux semblent avoir la même source, le même contact. Hein? Bernard disait qu'il était fusionné. Je ne sais pas si Michel Labrèche l'est autant que Bernard. Ce n'est pas une question de compétition. C'est une question de différents points de vue d'une même réalité. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai présenté Guy. Vous vous souvenez, Guylaine Langteau, qui prend le nom de Guy. Dies Guy. Michel Labrèche, je ne sais pas s'il garde son nom. Il n'est pas rentré en communauté. On sait que les gens, quand ils rentrent au couvent, deviennent religieuses ou religieux, ils changent de nom. Eh bien, Michel Labrèche, s'appelles-tu toujours Michel Labrèche? Bonjour, Michel.
Ben, en fait, c'est mon nom et je vais garder. Bonjour, Richard.
Ben, bonjour. Oui, Labrèche. C'est bon parce que Labrèche, c'est par là que la lumière passe. Hein?
Effectivement. Et d'ailleurs, si on va dans l'hébraïsme, l'abrach, ça veut dire le souffle divin qui vient de Dieu.
Oh là, ben, s'il est divin, il vient de Dieu, c'est sûr. Mais Michel, la semaine dernière, j'ai reçu Guylaine Langteau, que tu as connue à l'époque où elle était médecin, docteur, bien connu au Québec, et qui, la semaine dernière, nous a parlé de son rôle de Dies Guy. Qu'est-ce que tu penses de ça, de prendre le titre de Dieu? Elle a dit que c'est un mixage entre Dieu et déesse.
Je suis d'accord que la contraction du mot veut parler de deux réalités. Et quand on parle de Dieu, on parle de l'universel. Puis quand on parle de déesse, on parle de la partie divine de féminine, si on veut.
Oui.
OK? Et si on fait la contraction des deux, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, autant Bernard de Montréal parle du supramental, autant un jour, il faut être capable de dépasser la forme du supramental puis aller en dehors de ça, parce que ça c'est quand même une forme de connaissance. Et ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Et Guylaine, en passant, je l'ai rencontrée une seule fois, moi, il y a 30 ans, à la Pinsonnière, dans Charlevoix, pendant que ça n'avait pas passé au feu. Et elle venait de sortir son livre sur la mafia médicale. Puis moi, je préparais mon livre, Le statut de la liberté, qui était l'ancêtre là, du livre que toi t'as montré. Là, ça, c'est un livre de 1995 à peu près. OK? Et tout ce que je veux dire, c'est que ben je comprends son point de vue parce que en tant que femme qui s'assume, en tant que femme qui veut faire un peu matriarcat, un peu comme les Amazones, puis dépendre le point de vue féminin, parce que trop souvent, le point de vue masculin a masculinisé donc le concept de Dieu comme étant un homme. Alors, elle veut faire le contrebalanc et la partie opposée à ça. Donc, elle va parler beaucoup de dies. Mais un jour, dans le vocabulaire de quelqu'un, il faudrait aller, exemple, dans des mots non polarisés, puis aller parler juste de l'énergie universelle, exemple, qui est en dehors, donc, de Dieu et de dies et de divinité et de déesse, parce que ça, c'est des polarités de forme pensée qu'on a, qui existent, qui est dans le monde astral. Mm-hmm. Puis un jour, si on veut faire une vraie communication avec quelqu'un, si on n'emploie aucune polarité, on va pouvoir faire un échange d'énergie qui va être parfait.
En parlant de mots masculins, féminins, Bernard de Montréal, je lui ai reproché un jour d'utiliser, dans le siècle dernier, je trouve que c'est normal, mais on est maintenant dans le 21e siècle, il utilisait toujours le mot « homme, 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 homme » parce que le côté mâle de l'humanité a toujours dominé, puis ils ont décidé que l'humanité s'appellerait « homme ». Les hommes, les femmes, c'est « homme ». Alors que « homme » et « femme », c'est deux réalités distinctes dans l'énergie. Et pourquoi avoir pris le mot du mâle qui domine sur la femme puis qui va encore dominer avec le terme « homme » alors que quand on parle de l'homme en contrepoids, c'est la femme, comme le mâle, la femelle. Mais pour parler de l'humanité, où on dit « humanité », où on dit « l'être humain ». Parce que si on veut intégrer l'homme et la femme, arrêtons de prendre juste un des deux côtés. Alors toi, est-ce que dans ton discours, tu utilises le mot « humain » au lieu de toujours parler de l'homme? L'homme va faire ci, l'homme va faire ça. Attends une minute, là. L'homme, c'est mâle, c'est masculin, et la femme n'est pas concernée encore, ou bien non, tu l'as intégré?
Oui. Alors moi, je l'ai intégré, mais d'ailleurs, dans mon livre au début, il y a comme une note pour les lecteurs qui dit que si j'emploie le mot « homme » ou « humanité » de façon générative, c'est simplement pour représenter l'humanité de façon globale. Donc, parce que l'homme inclut la femme, puis la femme, en fait, c'est que c'est la version féminine d'un homme. Donc, la femme, c'est un homme, mais dans un corps femelle. Tu comprends-tu?
Et alors, d'ailleurs, on pourrait dire qu'un homme est une partie masculine d'une femme.
Pas tout à fait.
Ah, pourquoi, il y a une différence? Que,
regarde, on parle de l'humanité. L'humanité humaine. Main, c'est la
main. Il y a deux mains. Main droite, main gauche.
C'est le genre. Donc, le fait qu'on a des mains, on est des humains. Un humain, dans la polarité sexuée, fait qu'il y a un mâle et une femelle. OK?
Ben oui, d'ailleurs, ils sont faits pour être en face à face. Comme un homme et une femme, c'est fait pour être en face à face.
Totalement. Mais ce que je veux dire, c'est exemple, dans mon livre, je vais aborder, puis je vais dire que dans la réincarnation, que Bernard dit que l'homme ne comprenait pas c'est quoi la réincarnation, être un homme sur la Terre, c'est une fonction d'incarnation, tandis qu'être une femme, c'est une condition d'incarnation. La différence, elle est très subtile.
Oui, mais j'aimerais que tu me la définisses et l'expliquer un peu. C'est la première fois que j'entends celle-là.
Alors, un esprit, un âme, qui va s'incarner dans la matière, va prendre un corps physique, pour être capable un jour d'intégrer donc le principe donc de l'intelligence avec le principe de l'amour dans un corps physique qui présente le principe de la volonté. Donc, quand un esprit ou un âme s'incarne dans la matière, donc ça, c'est le principe de l'humanité. Donc ça, c'est une fonction d'incarnation. La fonctionnalité, c'est de quitter le monde immatériel pour venir dans le monde matériel. Tandis que quand tu es une femme, tu fais exactement ça, mais en plus, il y a comme une main attachée en arrière du dos, qui toi, c'est une condition d'incarnation parce que ça remplit une fonction, puis en plus, c'est comme si tu pars une coche en arrière parce que tu es une femme, puis comme tu es une femme, puis que le sexe masculin a dominé la femme pendant toutes ces années-là, on regarde les guerres, on regarde il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, etc., les femmes n'avaient pas leur mot à dire, ils viennent d'avoir leur droit de voter. Alors, la femme, c'est un homme qui est incarné dans la matière, mais en plus, qui a comme une tâche un peu plus difficile, qui est la condition féminine, parce que la condition féminine a été totalement manipulée et interférée par les hommes. Alors là, on arrive à un état où on va être égalitaire entre l'homme et la femme, et les deux sont aussi importants un que l'autre, et les deux ont des fonctions différentes, et ils se regardent effectivement face à face. Mais antérieurement, c'était encore plus difficile. Quelqu'un qui s'incarnait en tant qu'homme sur la femme qui devenait une femme, bien, c'est sûr que c'était un coefficient de difficulté différent. C'est comme quelqu'un qui va faire des plongeons puis va faire trois figures de style au lieu de deux, ben la troisième figure de style est plus difficile, coefficient de difficulté différent. Donc, évolutivement parlant, c'est beaucoup plus payant quelqu'un qui s'incarne en tant que femme, parce qu'en tant que femme, si elle est capable d'aller au-delà du conditionnement puis de la manipulation qu'elle va subir, elle va être capable de recevoir les trésors du ciel plus, puis ça va être une vie plus payante évolutivement parlant quand on va venir dans l'astral pour se réincarner une autre fois. Puis j'explique une autre chose très intéressante, aussi importante, c'est qu'en principe de magnétisme, l'électricité, OK? Si tu es un émetteur, c'est une chose. Si tu es un récepteur, c'est une autre chose. Mais si tu es un récepteur, tu es automatiquement un émetteur. Donc, moi, c'est Jarrett qui m'a montré ça. Et quand il m'a dit ça, moi, j'ai dit instantanément parce que j'ai mon contact avec ma source. Donc, une femme, c'est automatiquement une réceptrice. Donc, elle est automatiquement émettrice. Donc, une femme a nécessairement été un homme dans une autre vie. Tandis qu'il y a des hommes qui sont toujours des hommes et qui n'ont jamais été des femmes. Et ils ne comprennent pas la position et la condition féminine. Parce que si un homme a toujours été un homme 10 incarnations de suite, il n'a jamais été une femme, il ne sait pas c'est quoi une femme. Une femme qui est une femme, elle a été un homme, puis alternativement elle est une femme. Elle va peut-être revenir un homme ou une femme, c'est pas grave. Mais elle comprend parfaitement c'est quoi un homme. C'est pour ça que les femmes ont d'ailleurs un pouvoir d'amour beaucoup plus fort, parce que c'est eux autres qui vont enfanter, puis ils vont vivre l'amour à un niveau beaucoup plus fort. Et souvent, les femmes ont l'impression que les hommes les aiment de la même façon qu'eux autres aiment les hommes. Et ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas aimer et qui vont dire j'aime, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on dit les mots que ça veut dire qu'il y a un amour cosmique qui passe à travers ton âme. Donc, les femmes font de la projection parce que les autres, comme ils vivent le principe d'amour beaucoup plus fortement, ils ont l'impression que les hommes qui disent qu'ils aiment vont le dire de la même façon, avec la même force, la même intensité. Mais un homme qui n'a jamais été une femme ne peut pas contenir le pouvoir de l'amour au même niveau du rayonnement d'une femme qui a déjà été un homme et qui contient les deux dans son être-té. Voilà.
Monsieur, c'est une introduction de notre émission. Il y a une transition avec Guy la semaine dernière. Guy apprend le nom de Guy, pas dans le sens masculin d'un gars qui s'appelle Guy, mais dans le sens de Guy, le beurre, comment est-ce qu'il appelle ça, là, clarifié. Là. Le Guy, oui. en cuisine, là, c'est du beurre clarifié. Là. Il n'y a plus de lactose dedans. Là. C'est différent. Ben écoute, aujourd'hui, donc, tu as relevé mon défi, Michel Labrèche. Quand on a fait la dernière rencontre, je t'ai proposé de faire une entrevue. Moi, d'un côté, j'aurais Michel Labrèche, en l'occurrence, c'est toi aujourd'hui, et de l'autre côté, Bernard de Montréal. Mais il est mort, Bernard, en 2003. Hein, oui, en novembre 2003.
En fait, dans l'ésotérisme et dans la conscience, on dit Bernard, il a changé de plan parce qu'il est encore en vie, mais il n'a plus de corps physique, mais il est avec son corps moroncel dans une autre dimension, puis il est en train de travailler sur la transition entre la cinquième et la sixième race autour de la Terre. Laissez-moi vous dire ça.
Ce que tu appelles les cinquièmes races et sixièmes races, j'aimerais qu'on précise, il ne s'agit pas des Noirs, des Asiatiques, des Blancs, c'est pas ce niveau de race-là dont on veut parler.
Non. Si on veut expliquer c'est quoi les races, il y a un livre qui est super bien fait, qui a été fait par Victor Emmanuel, qui s'appelle « Réconciliation avec la vie », et qui explique que au début, les âmes, quand ils s'incarnaient, ils venaient sur la Terre et ils revenaient dans l'astral, et ils n'étaient pas pris donc par la gravité, puis par le pouvoir de la sexualité, puis la nourriture, etc. Mm-hmm. Donc, il y a eu des races boréennes, hyperborées, la Lémurie, il y a eu donc toutes ces races-là qui ont mené donc jusqu'à l'île de Pâques, etc. Puis que finalement, la dernière race, c'est la cinquième race, c'est la race indo-européenne, les Rishis. Donc, tout le où il y a l'Inde, où il y a, exemple, l'hébraïs, etc., ça, c'était le centre, le berceau, donc, de l'Europe. Et c'est de là qu'est née, donc, actuellement, notre civilisation, parce que, d'ailleurs, les Hébreux sont partis puis ont été en Angleterre. Donc, « it's Brit », c'est un mot hébreu. Puis les « Scottish », puis les Irish, puis les Danish, ça vient tout de là. D'ailleurs, « Gaulois », c'est « Gaulish ».« Gaulish », ça veut dire « peuple exilé », parce que c'est des Hébreux qui ont été là. Puis en passant, quand tu dis qu'il y a un mot qui se dit en indien, amérindien, hein, et qui se dit en français et qui se dit en même temps en hébreu, c'est le mot, c'est voyons, c'est j'ai un blanc, donc pas, mais c'est Montana, parce que ça, c'est ça veut dire petite montagne de neige. Okay. Hochelaga, pardon. Hochelaga, c'est petite montagne de neige. Et Hochelaga, c'est un mot hébreu, français et en même temps amérindien.
Oh là!
Donc, ça prouve que dans le centre de la cinquième race, qui est les Rishis, ben il y a des choses qui sont parties, puis il y a des Hébreux qui ont été en Amérique du Nord, d'autres qui ont été en Amérique du Sud, qui ont été un peu tout partout. Ça, c'est la base. C'est sûr que les Indiens, les Amérindiens d'Amérique du Sud, c'est une affaire. Les Chinois, ça, c'est une autre affaire. Ça fait pas partie, donc, de la race indo-européenne, les Rishis, qui était la cinquième race. Et la sixième race va être une race mentale. Parce que la race, actuellement, on a la race blanche, la jaune, la rouge, la noire, effectivement. Puis, il y a une prophétie qui existe, donc, à Ottawa, qui vient de Minewaukee, qui disait qu'à l'île Victoria, en arrière d'Ottawa, où il y a le Parlement, se réuniront, donc, les quatre membres de la tortue, Tortuga, la tête, c'est le Québec, puis tu as deux jambes qui sont, exemple, le Labrador et puis la Floride, puis tu as la Californie, puis tu as l'Alaska. Si tu regardes ça, ça a l'air d'une grosse tortue. Oh. Et ils disent que la prophétie a été faite il y a 12 000 ans. Et il y a 12 000 ans, ils disaient que maintenant, donc dans les années genre 2020-2030, va venir des quatre coins du monde, les peuples qui vont se réunir et qui vont faire qu'il va y avoir une paix après avoir eu des grandes tribulations. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Le huitième calvaire de la paix avec les Algonquins, il y a plein de choses qui se passent. Dominique Rankin, qui est un grand chef indien, il y a plein de gens qui ont un calvaire de la paix, eux autres qui ont 8000 ans, qui se transfèrent de père en fils. Et là, c'est le temps que la prophétie se réalise. Donc, c'est pas juste la prophétie des Andes, comme James Redfield, mais il y a plein de prophéties qui fait qu'on est dans un synchronisme total, puis on est dans l'ère du Kali Yuga, puis il y a un Mavantara pour l'ère indienne, ça dure 64 000 ans, puis c'est now que ça finit. Puis les autres cycles, l'ère du poisson, ben c'est 25 000 ans, ça finit maintenant. Tout va être en congruence totale pour faire dans le prochain cycle, donc un grand changement. Puis le coronavirus, puis la 5G, puis tout ça, puis l'Opus Dei, puis les Illuminati, ça fait toute partie de ça, parce qu'il y a un gros nettoyage qui doit se faire, il y a une fin de cycle qui doit se vivre, oui. Et les forces négatives essaient de faire leur mieux pour gagner la bataille, mais comme on dit, l'anode et la cathode, les deux font partie du tout, donc Lucifer et Dieu font partie de la même énergie, et Lucifer, s'il pense gagner, ben là, c'est impossible parce qu'il est issu de Dieu. Donc, dans un principe cosmique en théosophie, ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie universelle primordiale se manifeste et a laissé une énergie secondaire alternative créer des mondes inférieurs, dominer ces mondes-là, les mesmériser pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'un jour que l'esprit décide de s'insuffler lui-même dans la matière par l'intermédiaire d'émissaires. Et les émissaires qui vont recevoir l'esprit, qui vont être en contact total avec l'esprit, vont pouvoir recevoir le pouvoir de l'amour, être capable de manifester un amour. Et le pouvoir de l'amour est différent de la radiation de l'esprit, parce que l'esprit, ça manifeste une puissance. Mais l'esprit va être sous le contrôle de l'amour, parce que c'est l'amour qui va réunir l'esprit et qui va réunir donc le principe de la volonté dans la matière qui représente donc la génétique des hommes.
Hey, j'aime ça, Michel. T'es bon, là, t'es branché, vraiment. T'es prête pour être, pas en confrontation, mais en échange avec Bernard de Montréal. T'es d'accord?
Totalement.
Bon.
D'accord, alors vas-y.
Je prends ta caméra qui te permet de me voir, mais là, maintenant, je t'amène pour que tu puisses voir Bernard de Montréal quand on va le regarder sur l'écran ici. Et je dis à tout le monde, ce qu'on va regarder maintenant, c'est disponible sur Internet, hein, les vidéos de Bernard de Montréal. Il y a des gens qui se spécialisent dans Bernard de Montréal, alors que j'ai les droits d'auteur et les droits de reproduction de tout ça, évidemment. Mais je considère que Bernard, l'important, c'est pas de conserver des droits, c'est de donner le droit d'entendre Bernard. Et là, vous reconnaissez sans doute, Geneviève, si tu montres l'image qui est sur l'autre écran, oui, celle-là, qu'on appelle le supramental. Alors, pour y aller, j'ai pensé vous amener sur un site qui diffuse déjà beaucoup de conférences de Bernard de Montréal, qui s'appelle Diffusion, trait d'union, BDM, Bernard de Montréal, trait d'union, intel.com. Alors, autrement dit, c'est Diffusion, BDM, international. Et je ne vais pas très loin, je vais prendre celui-ci qui est un document très ancien, qui remonte à 1979, comme vous voyez sur l'écran ici. Eh oui, Bernard de Montréal, 1979. Et Michel Labrèche nous écoute. Tu es prêt, Michel?
Moi, je suis prêt, on va écouter.
On va écouter Bernard de Montréal. Et on s'attend d'avoir tes commentaires dans quelques instants. Si tu veux qu'on intervienne, tu me fais signe, j'arrête Bernard et on t'écoute. Allons-y.
Parfait.
Qui est derrière le supramental?
La première question, Michel. Qui est derrière le supramental? Qu'est-ce que tu pourrais me dire avant qu'on entende la réponse de Bernard? Qui est derrière le supramental? Quand tu dis ça me parle, là.
Okay.
C'est des intelligences.
Bon, moi, ce que je comprends, c'est que le supramental, premièrement, c'est une forme de connaissance qui est très élevée, mais qui vient du monde éthérique parce que ça n'existait pas dans le monde astral. Quand ça a été canalisé par Bernard, puis que ça avait été annoncé par Gurdjieff, puis Steiner, Aurobindo, puis tous ces gens-là dans les années 50-60, ils disaient qu'en 69, le supramental était pour descendre sur la Terre.
En effet.
Bernard de Montréal, qui était déjà incarné, a comme fusionné avec sa surconscience et il a connecté avec une entité qui était très, très haute dans le monde éthérique, qui était sa source à lui. Alors, moi, ma source à moi, elle est similaire en énergie à celle de Bernard, mais elle exprime des choses de façon différente. On est dans des époques différentes. Ça, c'est une vidéo qui date d'il y a 40 ans. Et moi, ben, 40 ans plus tard, j'ai une version qui est complémentaire, qui est pas la même énergie, mais qui est une énergie qui est très symbiotique avec celle-là. Okay. Donc, le supramental, pour moi, c'est des Melchisedec, qui veut dire roi de la justice, qui sont des êtres éternels, qui sont dans un monde éthérique et qui ont pour mandat de faire descendre donc le principe de l'intelligence sur la Terre, parce que la lumière doit se rendre jusque dans le plan matériel pour que certains émissaires, dont Bernard, dont moi, dont d'autres personnes, puissent être capables d'être exposés à cette lumière-là et être capables donc de la transposer en vulgarisation pour que des autres personnes qui n'ont pas accès directement à cette conscience-là et n'ont pas cette connaissance-là soient capables de l'intégrer puis de l'assimiler plus rapidement, parce que là, le temps s'accélère puis il y a plein de choses qui se passent actuellement pour qu'on aille voir donc un changement de cycle.
OK, c'est bon. Alors, on retourne écouter Bernard. Voici la réponse à la question que je venais de poser à Bernard. Bernard, qui est derrière le supramental?
Alors, dans ce phénomène, il y a deux parties. Il y a l'ego ou il n'y a pas d'ego. L'ego qui fait un mouvement le fait toujours par réflexion sur lui-même. L'ego qui est en fusion avec le supramental obéit à des lois de vibration qui sont des lois créatives et qui permettent au supramental de faire comprendre sur le plan matériel, sur le plan physique, les limitations de l'ego. Aujourd'hui, l'ego de l'homme, à cause de ses émotions, refuse le supramental. L'homme ne refuse pas le supramental par désir ou par négation, mais il le refuse par le fait même de sa constitution matérielle, vibratoire, énergétique. Lorsque le supramental ou les intelligences créatives entrent en contact avec un ego humain, la première chose qu'ils font, c'est de lui enlever les facultés naturelles qui se sont développées au cours des siècles et qui se sont transmises par le code génétique et aussi par le système d'acculturation. La faculté la plus importante qu'on lui enlève, c'est la faculté de la mémoire subjective.
Comment tu définis ça, la mémoire subjective? Là, Bernard ne l'a pas défini, puis j'aimerais que tu nous donnes l'explication. La mémoire subjective. Ouais.
Okay. Bernard, il dit que bon, l'ego va rejeter la lumière qui va se présenter à lui. C'est un phénomène de rejet. Pareil comme lorsqu'on a une greffe avec quelqu'un qui n'est pas biocompatible avec nous autres, le corps va rejeter un organe comme un rein s'il n'est pas donné par quelqu'un, exemple, de la même famille. Alors souvent, l'ego veut recevoir la lumière, mais l'ego étant trop imparfait dans sa vibration, a développé des mécanismes qu'il a fait donc un alter ego. Donc il a fait une construction, le miroir aux alouettes, et l'ego qui a été construit est en réaction avec toutes les oppositions qu'il y a eu de l'extérieur qui ont codé l'âme et qui ont fait des mémoires négatives. Donc, le problème, c'est que l'ego, étant là, doit être totalement dématérialisé, défait par l'esprit au long d'un long processus initiatique. Donc, ce qu'on appelle la mémoire subjective, c'est la capacité de penser mais en dehors de, donc avec une polarité. Parce que si on est capable de penser et d'avoir une mémoire donc objective, on va avoir la mémoire de fait, mais on n'aura pas la mémoire des émotions qui ont été créées suite à l'enregistrement de certains faits dans notre mémoire. Donc, quand on dit, Bernard, il dit que ben l'être humain ne sera plus capable de penser, l'être humain devra naturellement être simplement capable donc de vivre une communication télépathique avec son esprit, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune communication subjective, donc de mémoire subjective, dans son plan mental.
OK. On le continue. Alors là, c'était la première chose. Il dit qu'il y avait deux choses. La mémoire subjective lui est enlevée, puis ensuite...
On lui fait comprendre que ce qu'on appelle sur notre plan ici « the freedom of choice », le libre arbitre, est une illusion. L'ego, lui, pour être en sécurité à l'intérieur de sa propre réflexion, de ses propres mécanismes mentaux, émotionnels, a besoin de savoir philosophiquement que le libre arbitre existe. Sans ça, s'il n'a pas cette illusion, il se sent tyrannisé, il se sent mis au rencard des esclaves, et éventuellement, il ne peut plus fonctionner et il se suicide.
Tu l'as arrêté?
Sur le plan de la communication supramentale.
Oui, à toi
okay.
La parole.
Là, ce que je vais retenir, c'est que, bon, ce qu'on appelle le libre arbitre, en anglais, the freedom of choice. Alors, les gens, pour avoir l'impression qu'ils sont libres et qu'ils choisissent leur propre destinée, doivent avoir l'illusion que le libre-arbitre existe. Le problème qui arrive, c'est que comme tout est réglementé, tout est régi et qu'il y a des mondes d'influence, de domination, d'interférence qui existent à toutes les sphères de notre vie, que ce soit les parents, les amis, la société, les personnes qu'on ne connaît même pas, on est influencé par l'extérieur. Donc, le libre-arbitre est une illusion dans le sens que quand on choisit déjà à l'intérieur d'un menu qui a déjà été préparé pour nous autres. Donc, est-ce qu'on est libre réellement si on ne peut pas créer notre propre menu? Et lorsque on décide qu'on dit on s'en va médecin, on s'en va avocat, on s'en va n'importe quoi, on va aux Olympiques parce qu'on a un rêve, puis Walt Disney a dit que le rêve, il faut qu'on le réalise, ben quand on se fait dire ça, est-ce que c'est pas un peu de la propagande pour nous aller faire loin dans notre psyché, mais en fonction d'un rêve qui nous a été insufflé? Donc, quand le rêve est insufflé, si c'est pas vraiment notre propre rêve, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment libre puis qu'on va utiliser notre libre arbitre? On va dire, j'ai décidé de faire ceci au lieu de faire cela, mais si on est influencé à faire ça pour faire plaisir à quelqu'un, pour contrecarrer quelqu'un ou autre, est-ce que c'est vraiment la liberté de façon absolue? On continue.
Ce phénomène de suicide est impossible. Mais le phénomène de réalisation de la relation totale, unitaire, entre l'ego et cet autre niveau d'intelligence doit être totalement et absolument intégré dans la personnalité. C'est-à-dire que l'ego n'a plus de jeu d'espace psychologique pour discuter philosophiquement de la réalité du phénomène. La raison pour laquelle j'ai crié au début, c'était pour faire comprendre que dans l'ordre psychologique de l'ego, certains phénomènes sociaux, culturels, ne sont pas possibles. Parce que l'ego se dit automatiquement, ils vont me prendre pour un fou. Alors, si l'ego doit faire passer une idée en relation avec une vibration, il doit être totalement fusionné à ce niveau d'énergie qui s'explique éventuellement et qui permet aux gens qui entendent de comprendre certains aspects qui sont très abstraits concernant la relation entre l'ego et le supramental. L'homme est très jeune dans son évolution. Sur le plan physique, il est vieux. Mais sur le plan cosmique, sur le plan de l'âme, sur le plan interplanétaire, il est très jeune parce qu'il n'a pas encore compris les lois de la réincarnation. Lorsqu'on dit que l'ego est une illusion, on ne dit pas que l'ego est une illusion. On dit que ce qui fait, ce qui construit l'ego, ce qui permet à l'ego de vivre une vie inconsciente est une illusion. Et lorsque le contact se fait avec le supramental, ces illusions-là sont détruites et à ce moment-là, l'ego est libre de fonctionner en relation vibratoire avec ses forces sans perdre de sa créativité, au contraire, et sans perdre ce qu'il avait déjà. Les gens s'imaginent souvent que être en contact avec d'autres niveaux d'intelligence implique, si ces forces-là sont très grandes, une perte. Il n'y a pas de perte. Il y a une grande expansion du pouvoir créatif de l'ego et une grande réalisation à l'intérieur de lui-même des forces avec lesquelles il travaille et avec lesquelles il peut communiquer par télépathie. Ça, c'est la première
chose. Arrêté.
Qu'est-ce que le supramental?
D'abord... Oh, ça va être une bonne question après. Vas-y, Michel, tu avais quelque chose à ajouter?
C'est le bon timing. Fait que la première chose, c'est que Bernard, il faisait ça souvent en conférence. Il arrivait, puis il disait, vous savez quoi de l'énergie? Puis il te lâchait un whack. Là, tout le monde montait deux pieds sur leur chaise, la chair de poule, parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à ça. Puis là, il disait, ben là, je vous ai transféré de l'énergie. Donc ça, c'est de l'énergie. Puis votre système sensoriel, quand il s'en attend pas, il peut être débalancé émotivement parlant très facilement. Et c'est vrai. Donc, oui. S'imaginez quelqu'un qui monte deux pieds sur sa chaise parce qu'il y a un speaker d'avant qui fait juste crier. Imagine si vous arrivez puis il y a des extraterrestres qui se matérialisent devant vous. Ça va être pas mal plus intense que ça, puis vous allez pas mal plus qu'avoir la chair de poule. Donc, l'être humain n'est pas encore prêt, mais il devient de plus en plus prêt parce qu'il est en préparation à rencontrer des civilisations qui sont là, qui nous supervisent, qui sont là pour nous épauler parce qu'il y a un troc qui va se faire cosmique entre ces intelligences-là puis nous autres dans un temps très bref. Maintenant, Bernard, il dit que l'ego existe, et c'est vrai. L'ego, c'est une construction réelle, mais temporaire, subsidiaire. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est la construction de toutes les impressions que l'âme reçoit et de toute la souffrance que l'âme va vivre, véhiculer, qui va être stockée dans un continuum énergétique et qui, en réactionnellement parlant, va construire quelque chose pour se parer donc d'autres souffrances, et ils vont faire une construction alternative, temporaire, qui un jour doit être détruite. Donc, quand il dit Bernard, effectivement, c'est l'ego est vrai, mais c'est ce que l'ego véhicule qui n'est pas vrai, c'est le matériel, le contenu à l'intérieur de l'ego est simplement un sol qui est meuble sur lequel il ne peut pas avoir de fondation solide comme le de Jupiter. Donc, la connexion avec le supramental fait en sorte qu'un jour, lorsque l'ego est translucide, c'est-à-dire qu'on garde notre ego, mais il est comme déégoïfié. C'est comme de l'or qui a de l'arsenic, on enlève l'arsenic, il reste de l'or pur à 100%. Alors, l'ego devient de l'or pur à 100% comme, puis à ce moment-là, il peut donc être une espèce de contenant qui va véhiculer la conscience, mais il va être centrique au lieu d'être égocentrique. Donc, ça va être centré sur une perception et une connexion avec le centre de l'univers. Et ça va être quelque chose qui va être très, très créatif parce qu'il va avoir un download d'une énergie. Et comme on dit, à ce moment-là, l'ego n'a plus de place dans sa tête pour contrecarrer les ordres qui viennent du général de l'armée céleste de Dieu lui-même. Alors, quand Dieu se manifeste, il peut se manifester par les anges qui sont des porteurs de lumière, qui sont des messagers, et il peut se manifester par une énergie d'intelligence qui va rentrer dans le mental supérieur d'un être qui va avoir réussi à trucider l'ego, c'est-à-dire s'en débarrasser et de garder juste la forme qui crée l'ego pour que ça devienne un contenant qui va véhiculer la conscience de l'intelligence. Et ça, quand ça va être adjoint avec l'âme, qui va agir en tant que champ de force et en tant que pouvoir cosmique, va être capable de réunir l'esprit et le corps physique, et dans la même unité, va avoir donc les trois principes d'intelligence, amour et volonté. Et là, ces personnes-là vont donner des émissaires de l'esprit qui vont être incarnés par loi matérielle dans la matière, et ils vont être capables d'altérer et changer la société de, je ne dirais pas quoi, ça commence par le mot M, qui on vit actuellement, qu'on n'est même pas capable de se corriger. On est en train de s'auto-détruire en faisant toutes sortes de choses qui est contre le genre humain. Voilà.
OK. Le M, je sais de quoi tu veux dire, dans la société, on est dans une société de M, mutation.
Et voilà.
Oui. Michel, là, tu as entendu la question qui venait où Bernard était pour définir ce qu'est le supramental. Alors là, avant de l'écouter, lui, donne-moi ta définition du supramental.
Alors moi, la définition du supramental, comme je dis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une forme de connaissance qui, aujourd'hui, devrait être détruite parce que Bernard, aujourd'hui, s'il était encore vivant, défrait les formes qu'il a créées, qu'il a utilisées, genre le périsprit, l'acheteur de pensée, tous ces mots-là parce que ce sont des formes, il faut qu'on se parle avec des mots. Les mots contiennent des formes, les formes sont des vibrations. Quand on est capable de transférer une vibration à l'intérieur d'un mot, on va transférer quelque chose. Mais quand la personne va évoluer puis de façon plus subtile, on va être capable d'aller plus loin, on va changer notre vocabulaire, on va l'adapter. C'est pour ça que les mots doivent migrer avec l'être humain qui va être en évolution. Alors, le supramental, c'est quoi? Si on définit c'est quoi le mental, c'est l'intellect et le rationalisme qui est le développement par expérimentation et expérience de l'être humain, donc dans la matière, qui apprend et qui apprend à s'élever au-dessus de la matière, à cause qu'il y a un âme qui va répertorier toute la mémoire de l'expérience qui a été véhiculée. Et le supramental, c'est être capable d'aller au-delà du mental normal régulier. Donc, c'est le supra ou le supermental, c'est le mental supérieur. C'est un mental qui, lui, ne sera pas sujet au conditionnement extérieur et qui ne sera pas sujet à la manipulation extérieure parce qu'il va être shieldé de ça, parce qu'il n'aura pas les réactions émotionnelles de basse vibration qui accompagnent normalement les expériences qu'on est manipulé ou on est dominé à notre insu. Donc, la jalousie, la peur, la convoitise, le doute, toutes ces affaires-là, c'est des choses qui ne nous habiteront pas. Et comme ils n'habiteront pas notre esprit, quand on va recevoir de l'énergie de l'esprit universel, ça va rentrer, mais dans le mental supérieur, qui va être la capacité de recevoir cette énergie-là, mais en ne bypassant pas le message original et en étant capable de manifester donc cette énergie-là, mais dans un niveau physique où il y a une matérialisation pour une création, parce que tout doit être création. La magie, c'est l'art de prendre de l'énergie et de se servir de cette énergie-là pour faire une création dont on va bénéficier tout le monde, individuellement et globalement.
Bravo.
Voilà.
Là, on va écouter Bernard de Montréal en 1979.
Quand je dis que penser, c'est une perte d'énergie, je dis que penser, c'est une faculté mécanique, cérébrale, humaine, qui fait partie de l'évolution de l'homme, mais qui éventuellement sera totalement arrêtée si l'homme est pour connaître et si l'homme est pour travailler avec des intelligences qui sont d'une très grande simplicité, mais d'une puissance énorme.
C'était la fin de ce premier document.
Donc, pour finir avec ça, je suis d'accord avec sa conclusion, effectivement, parce que éventuellement, le destin de l'humanité, lorsqu'il aura atteint un point où il y aura une fusion entre l'ego et l'esprit, va faire en sorte qu'on va être en contact avec d'autres dimensions d'énergie et d'autres civilisations qui sont capables donc de faire des contractions entre l'espace et le temps, distorsionner ça pour être capable de se véhiculer sur des très, très grandes distances parce que l'univers, c'est infini.
On continue avec un autre passage de Bernard. Mais
autrefois, on faisait toutes sortes de choses parce que ça faisait partie de l'évolution de l'homme. Ce qui a été vécu par l'humanité depuis des millénaires était essentiel parce que l'homme devait développer des moyens émotifs et des moyens intellectuels pour s'approprier de plus en plus d'une certaine version de la réalité. Mais ce n'est pas par l'émotion et ce n'est pas par l'intellect que l'homme peut savoir. L'émotion et l'intellect sont simplement les étapes préparatoires à l'humanité. L'homme d'aujourd'hui n'est pas encore homme. L'homme n'est pas terminé.
L'homme sera homme lorsqu'il sera créateur à son tour.
L'homme sera homme lorsqu'il sera créateur, et il sera créateur dans les terres, et c'est dans les terres qu'il sera dans l'intelligence, qu'il pourra se servir de l'amour pour créer, qu'il pourra se servir du son pour entretenir tous les aspects de la volonté créative et de l'intelligence créative, et c'est dans les terres que l'homme vivra ce qu'on appelle le paradis terrestre, et non le ciel. L'homme ne doit jamais aller au ciel.
Oh, t'as entendu ça, Michel?
Oui, alors...
Comment tu interprètes ça, là? On dit toujours qu'il faut gagner notre ciel.
Oui, c'est ça. En fait, le ciel, c'est la version astrale du paradis terrestre. Les gens doivent aller au ciel parce que dans la vision limitative des êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les deux pieds sur la terre, ils regardent quoi? Ils regardent donc le firmament et ils voient ce qu'ils appellent le ciel. OK? Puis le ciel en anglais, c'est heaven, OK? C'est pas the sky. C'est une grosse, grosse différence.
C'est
menti.
Oui, c'est bon.
Faut regarder ça. Alors, si tu regardes ça, le paradis, paradise, d'ailleurs, c'est un mot hébreu, c'est paradish. Ça, c'est de l'hébreu, ça.
Okay? Paradish, ouais.
Alors, c'est juste qu'en français, on dit pas le ish, puis on dit paradis, mais ça vient de l'hébreu. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Torah, d'ailleurs, qui sont très bien codées là, puis ça fait depuis 5773 ans que c'est là. Puis, c'est de la connaissance sacrée qui vient des Elohim, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que maintenant, on parlait du pouvoir du son. Puis, effectivement, quand l'être humain va avoir accès à sa surconscience en faisant un double éthérique, puis en étant capable de créer un corps moronciel, il va être capable de se véhiculer partout dans l'univers, puis il sera plus atteint par les corps célestes, que ce soit des astéroïdes, des trous noirs, ou d'autres planètes, ou des étoiles. Donc là, on est limitativement limité à cause qu'on a notre cordon d'argent dans notre corps astral qui est connecté avec le corps physique. On peut se déplacer, mais relativement pas trop loin autour de la Terre. Tandis que quand le corps moronciel va être fait, ça va être une autre histoire, et l'être humain sur la Terre aura à ce moment-là le pouvoir du son. Le pouvoir du son, c'est quoi? C'est le pouvoir d'activer avec donc son chakra de la gorge une énergie qui va passer par le plan supérieur, qui va rentrer dans le corps physique, et quand il va habiter donc le mental, ça va être une chose, puis quand il va descendre dans le corps physique, ça va allumer le troisième œil, puis en même temps, ça va se localiser dans la gorge ou le chakra. Donc, dans votre chakra de la gorge, de la thyroïde, vous allez avoir comme la faculté de faire un son qui va faire en sorte que ça va faire entrer les atomes en fréquence de résonance. Et en faisant ça, on va être capable d'avoir le pouvoir sur la matière pour la démoduler et la remoduler. Ça, c'est les mots, là, quand vous avez le mot modem, là, en informatique, là, c'est modulation, démodulation. C'est-à-dire organisation en ondes et désorganisation en ondes. Quand tu es capable de faire ça, tu es capable d'émettre un son. Puis ça me fait penser un peu le film Dune, à un moment donné, 1983, dans
oui,
ce film-là.
Ouais.
Et en dessous de la gorge, quand il mettait l'appareil, ça amplifiait donc une résonance qu'il y avait par la parole et qui pouvait envoyer un son ou une énergie qui pouvait faire, exemple, éclater une matière. Mais le but ici, le pouvoir du son ne servira pas à faire éclater la matière, va servir à reconfigurer la matière, la contenir dans un champ de force et la remoduler selon l'intention de la personne. À Green Lantern, le pouvoir de la volonté, quand tu es capable de moduler l'énergie, tu peux la reconfigurer selon ta conscience et ce que tu as à faire comme travail créatif. Donc, c'est ça le pouvoir du son qui s'en vient.
Avec des mots précis, le son
avec
précis.
Avec des mots précis,
exactement.
Là, on va assister à ce qu'on appelle la magie cérémoniale. Pourquoi? Parce que les mots qui sont prononcés de façon vibratoire, les mots contiennent une énergie et les mots contiennent une forme. Et quand il y a une relation entre l'énergie et la forme et la conscience atomique de la personne qui est en connexité avec le centre de l'univers, la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est prononcer les bons mots et ça va faire l'équivalent, mais je dis pas ça, pareil, l'équivalent des formules magiques dans tous les films ésotériques qui existent. Mais là, c'est pas en prononçant avec un grimoire une formule Serpentinus, puis que là, la personne va se transformer en serpent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est être capable de vibratoirement choisir les bons mots dans ton vocabulaire avec ta conscience qui vont comprendre la forme, l'énergie que tu vas éthériser par ton chakra de la gorge, puis que tu vas commander à la matière en la désorganisant et la réorganisant selon ta propre volonté, qui est la volonté cosmique, qui est connecté avec le centre de l'univers.
Et monsieur, on va finir d'écouter Bernard. Alors, allons-y avec celle-là.
Pour que l'homme puisse réellement favoriser son individualité, puis en arriver éventuellement à une identité profonde de son être, il lui faudra avoir une conscience ou une science très, très avancée de l'invisible. Une des qualités de l'évolution future sera justement basée sur cette science de l'invisible. Une science qui sera très profonde, qui ira très loin dans la documentation psychique de l'être, dans la documentation mentale de l'homme, vitale, émotive. L'homme doit connaître le secret du monde mental. Et c'est comme ça qu'il pourra déconditionner sa personnalité pour la reconditionner. Mais la reconditionner par rapport à des forces intérieures qui font partie de sa propre lumière, au lieu de la conditionner par rapport à des mouvements ou de forces sociales qui font partie de ses ténèbres ou des ténèbres de la société. L'homme sera de plus en plus idéologisé. L'idéologie n'aura plus de puissance ou de pouvoir sur lui.
Si les idéologies ou les systèmes qui sont mis en place dans l'inconscient collectif finissent toujours par écraser l'individu qui devient marginal par le fait qu'il est un individu détaché du troupeau de moutons, celui qui va vraiment être conscientisé va se faire écraser parce qu'il est marginal et il dérange la mécanique.
Non. L'homme qui sera conscientisé sera très intelligent. Donc, sa conscience étant une conscience intelligente, lui permettra de comprendre les conditions qui sont extérieures à lui, comme elle lui permettra de comprendre les conditions qui sont intérieures à lui. Donc, l'homme conscient sera pas marginal. La marginalité, c'est une déformation de la conscience, mais c'est une pulsion puissante de l'âme à travers l'expérience individuelle. La marginalité, ce n'est pas une sécurité pour l'homme. Au cours des millénaires, les hommes qui ont vécu de la marginalité ont souffert. Ils ont souffert des forces extérieures à eux, parce que le pouvoir politique était intransigeant. Mais depuis quelques générations et avec l'avenir, le pouvoir politique devient de plus en plus démocratisé, dans ce sens que la conscience sociale même évolue. Les droits de l'homme, la charte des droits de l'homme, et ainsi de suite. Et tout ceci permet à l'individu de s'exprimer. Mais pour les hommes qui auront une grande conscience, ils pourront facilement se rendre homogènes avec cette démocratisation, mais c'est intérieurement qu'ils seront identiques à eux. Parce que même si on parle de conscience sur la Terre, il ne faut pas s'imaginer... D'ailleurs, cette conscience nouvelle sera une conscience intelligente, ce ne sera pas une conscience spirituelle. Ce sera définitivement une conscience intelligente qui aura dépassé la conscience spirituelle, parce que la conscience spirituelle aussi, c'est une forme de conditionnement. Que la conscience spirituelle soit conditionnée par l'Église ou par les philosophies orientales, ou qu'elle soit conditionnée par l'ésotérisme ou l'occultisme, la conscience spirituelle, c'est une conscience conditionnée. Et l'homme doit aller au-delà même de ce conditionnement pour entrer dans sa propre lumière. À ce moment-là, il est suffisamment, ou il sera suffisamment intelligent pour voir que des consciences ou des étapes de conscience conditionnées sont nécessaires. Les religions sont nécessaires. Les consciences spirituelles, intuitives, occultes, ésotériques aussi sont nécessaires. Mais c'est pas la fin. La conscience spirituelle de l'homme sur la Terre, ce n'est pas la fin. L'homme devra en arriver éventuellement à avoir une conscience réellement très intelligente pour comprendre justement ce qui se passe sur la Terre, sur le plan matériel, et aussi ce qui se passe dans l'invisible. Mais tant que l'homme aura une conscience spirituelle, il ne pourra pas comprendre ce qui se passe dans l'invisible.
OK.
Oui, Michel.
Bon, là, ce qu'a dit Bernard, il a dit beaucoup de choses naturellement, là, parce que son discours, il est très large. La première affaire, c'est que c'est sûr que l'être humain doit avoir accès à sa propre identité. Quand tu trouves ton identité, tu comprends ton plan de vie, tu comprends ta programmation, tu ne contrôles pas ta programmation, mais tu la comprends. Quand tu es en alliance avec une énergie qui rentre en toi, tu es totalement en fusion avec cette énergie-là et tu vas avoir conscience donc de l'invisible. Parce que l'être humain incarné, la première chose que ça veut dire, comme disait Bernard, c'est qu'on est empêché de voir. c'est-à-dire que notre troisième œil n'est pas ouvert, comme on voit dire, on a conscience par l'empire de nos sens. Parce qu'on a conscience par l'empire de nos sens, on comprend des choses, mais simplement, matériellement, avec une science empirique. Donc, c'est évident que si on veut être totalement libre, il faut qu'on ait conscience donc des lois cosmiques et donc de l'invisible. Donc, à qui on dialogue, à quoi ça sert, quelle est la fonction, quel est le but, etc. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des gens dans le passé qui ont souffert de leur grande médiumnité ou de leur grande conscience. Puis, plus on recule dans des temps anciens, pensez à Jeanne d'Arc qui a libéré la France. Pensez à Galilée, Copernic, Nostradamus. Il y a plein de gens qui savaient des choses, mais quand tu es un précurseur, même Einstein, tu fais rire de toi parce que tu es trop en avance par rapport aux autres. Parce que toi, tu marches dans l'esprit, puis les autres, ils marchent dans la référence réflective. Donc, c'est évident que c'est important pour avoir accès à sa propre identité, d'être dans son feu, puis de comprendre la balance qu'il y a entre les lois extérieures et les lois intérieures. Les lois intérieures font en sorte que toi, dans ta psyché, quand tu es en connexion avec l'universel, tu vas être capable de te créer matériellement dans la vie avec la noblesse et la grandeur de ton esprit, la capacité que tu vas avoir de connecter avec la psyché du centre de l'univers. Donc, une dimension d'énergie qui va faire en sorte que tu vas avoir une valeur égale à ta valeur dans le monde invisible. Donc, plus tu es une personne élevée en énergie, si tu es un grand Melchizedek, ce que tu vas faire dans ta matière va faire en sorte que ça va correspondre à ce que tu es réellement dans le monde invisible. Ça ne sera peut-être pas tout de suite. Au début, il va y avoir des balbutiements, il va y avoir des gens qui vont se créer des propres états, des petits groupes ensemble, des petites communautés. Puis plus ça va graduellement, les gens vont être capables de faire ce qu'on appelle de la télépathie ambiante avec les autres personnes qui vont faire partie de leur même société qui fait partie de la sixième race qui est en train de s'incarner sur la Terre. Quand ça va arriver, éventuellement, il va y avoir la création d'une micro-société qui va être en marge de la société actuelle et on va être capable de voir c'est quoi les facteurs extérieurs qui vont nous influencer sans que ça nous influence parce qu'on va comprendre tous les paramètres de pourquoi l'implication et la matérialisation de ces conditions-là qui sont totalement néfastes pour le genre humain pour discréditer et balayer une partie de la population locale planétaire. Par la suite, il va y avoir le phénix qui va renaître de ses cendres où il va y avoir la sixième race en alliance avec les extraterrestres qui vont venir pour nous aider à rebâtir parce que ça va être un gros flop monumental, total. Qu'est-ce qui va rester après la fin donc du cycle quand les événements majeurs vont se manifester puis qu'on va passer à un autre ordre de grandeur dans l'histoire de l'univers pour la Terre?
On est-tu déjà rendu dans cette période de transition, de transfert? Est-ce qu'on est déjà rendu à l'époque où on va être en contact dans peut-être moins d'une génération là? C'est dans les années qui viennent. On n'a plus pour 200 ans à attendre.
Non, 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 c'est moins que ça, parce que d'ailleurs, Bernard, dans une de tes conférences que tu as faites au Cégep Maisonneuve, que j'étais là, Bernard, il disait, bon, en 2042, il va avoir telle affaire, puis il faisait des projections dans le futur. Tous les chiffres qui avançaient, même s'ils sont réels, même s'ils étaient vrais, OK, le problème, c'est que ça devient une forme de connaissance pour des gens qui vont utopiser cette information-là puis dire, OK, ça y est, dans 22 ans, les extraterrestres s'en viennent, il nous reste juste 22 ans à attendre. C'est pas tout à fait de même que ça marche, parce que premièrement, il peut y avoir une accélération du temps. Deuxièmement, on a emboîté. Tu sais quoi, une essoreuse? Quand tu mets ton doigt dans l'essoreuse, là, ben, le reste du bras puis le corps au complet va être obligé de passer. Ben, c'est comme ça que ça marche. Alors là, on a commencé avec 2019-2020, avec le COVID, avec la 5G, avec tout ce qui se passe à Terre, avec l'effondrement, donc, actuellement du système de valeurs qu'on a, on est actuellement, vous savez pas, là, on est dans la troisième guerre mondiale. Pas la troisième guerre atomique. La troisième guerre mondiale qui est une guerre des nerfs, qui est une guerre bactériologique, qui devient une guerre technologique, qui devient une guerre avec un agenda financier. Pourquoi? Pour l'enjeu des âmes. Alors, les forces négatives se manifestent par l'intermédiaire de plein de petits représentants, des petits grippes, de tout ce que vous voulez appeler, là, des grippettes, là, des gremlins, whatever. Ces êtres-là, ce sont des êtres qui veulent simplement manifester le rayonnement des forces négatives parce qu'ils sont sujets à être dominés par des forces qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est, et surtout les grands savants qui font la matérialisation de la 5G ne savent pas c'est quoi, ne savent pas qu'est-ce que ça fait réellement, donc des micro-fréquences à des niveaux tellement bas que ça empêche la cellule de respirer puis d'intégrer l'oxygène, puis que ça cause des perturbations chez tous les gens qui ont des problèmes immunologiques. Alors, c'est sûr et certain que là, la guerre est commencée, il y a des gens qui la voient, il y en a qui disent tout le monde va crier aux conspirations, aux conflits, aux complots, puis vous êtes tous en train d'être dans la graisse de bine. Ben ça, c'est des gens qui sont endormis, qui sont comme la masse. Actuellement, c'est ce qu'on appelle un field test. C'est-à-dire que le virus qui a été fait, concocté, puis relâché, expiré, que ce soit par les Chinois ou par d'autres personnes, ça a été fait parce qu'il y a un agenda contre le genre humain. Puis ça, ils vont voir la réaction des gens. Puis s'ils disent, ben c'est le fun, des gens, 95%, c'est des boutons, ils font rien, puis ils veulent tout avoir le vaccin. C'est le fun. On va accélérer la patente, puis on va devancer l'agenda cosmique planétaire de domination, puis on va faire le COVID-20 bientôt, puis on va faire le nouvel confinement rendu à l'hiver prochain, puis checker bien ça, qu'est-ce qui va arriver, parce que là, il va y avoir des vrais morts, parce que comme on va être confinés, on n'aura pas été capable de s'auto-immuniser globalement en tant que race, et là, ça va tomber comme des feuilles, puis là, il va y avoir des sacs noirs. Moi, je vais vous dire ça. Fait qu'il faut faire attention, puis faites-donc des emplettes, puis stack up, comme on dit, là, vos provisions là, pour le prochain hiver, parce qu'il risque d'être pas mal plus rough que ce qu'on a.
L'économie s'en va dans le trou, hein? L'économie s'en va dans le trou.
5 à 10 ans avant de revenir au point zéro. Parce que là, quand les hôtels et les restaurants vont ouvrir, là, pensez-vous que les gens vont dire 3 bouteilles de champagne à 150 piastres la bouteille? Ils vont dire non, l'argent est rare, on va faire attention.
Ben oui.
Ils vont penser, ils vont dire je prends un thé à 2,50. Là, les propriétaires vont dire que la place est full, mais j'ai fait un tiers de mes recettes d'habitude, je peux pas garder mon stack, on va fermer. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer, là. Ça va débouler là, dans les prochaines... Les prochaines années, les prochains mois, là, ça sera pas drôle. Donc, faut s'attendre à tout de la part des forces négatives, incluant la création de nouvel ordre mondial que le pape a annoncé le 1er mai, comme quoi le 14 mai, il faisait un deal avec l'imam des musulmans, comme quoi il était pour être tout ensemble pour dénoncer les gens qui ne veulent pas rentrer dans le rang. Et tu sais, je sais pas si tu connais Willard, là, ça c'est comme une opéra, là. C'est le gars qui se promène avec la petite truc, là, puis là, il débarrasse les gens des chats. Puis quand les gens veulent pas le payer, ben ils font ça avec les enfants, puis tous les enfants sautent à la rivière. Fait que là, il y a des gens qui vont avoir des consignes, qui vont suivre aveuglément, parce que ce sont des exécutants, ce ne sont pas des penseurs comme le penseur de Rodin. Puis comme c'est des exécutants, ben ils vont dire, on se fait dire de façon, on va appliquer la norme. Mais c'est correct d'appliquer la norme dans un sens quand on fait du bon sens, mais quand on fait pas de bon sens, il y a des gens qui vont se rebeller. Mais le ratio, ça nous permet d'identifier maintenant qui sont les moutons, qui sont les loups. Alors, c'est bon d'être un loup finalement, parce que un loup, ça mange les moutons. Le mouton, ben, il se met manger la laine sur le dos, puis lui, ben là, il va à l'abattoir, comprends-tu? Alors là, les gens qui veulent contrôler la norme, ils vont dire, ben, on a beaucoup plus de moutons qu'on pensait, on a quelques individus, on va essayer de les cibler, on va essayer de les taire, on va essayer de taire la chaîne YouTube, puis toutes les affaires qu'ils vont dire, puis on va simplement aller à d'autres choses, puis on va pouvoir les contrôler. Diviser pour régner, c'est César qui disait ça, c'est bien facile.
Ouais. Est-ce que toi, de ton côté, tu prendrais la vaccination contre le coronavirus, le COVID-19, là, avant de parler du 20 et du 21? Là, est-ce que si ils t'imposent la vaccination pour l'automne en disant « prenez le vaccin, sinon restez chez vous, sortez pas, allez pas dans les centres d'achat, envoyez pas vos enfants à l'école s'ils n'ont pas eu le vaccin? »
Alors moi, c'est facile, j'ai pas d'enfants, mais je les enverrai pas à l'école. Deuxièmement, je prendrai pas le vaccin parce que si quelqu'un vient m'imposer quelque chose, c'est comme un affront à ma liberté. OK? Donc ma liberté fait en sorte qu'il y a des protocoles qui existent que tu as le droit de refuser le vaccin, tu as le droit de prendre la fiole puis dire je pars avec, m'en la faire analyser, m'en voir qu'est-ce qu'il y a dedans, y a-tu de la nanotechnologie, y a-tu des cochonneries? Moi, je suis pas intéressé. De toute façon, j'ai passé des tests puis le coronavirus, il est pas capable de rien faire contre moi parce que mon taux vibratoire est trop élevé.
Tu l'as appelé le coronavirus? C'est pas le coronavirus.
C'est ça.
Le coronavirus. Oui, comme tantôt, t'en as sorti une bombe. Le petit gris, tu sais, les petits gris, là, les extraterrestres, les petits grippettes. Oui. T'es appelé les petits grippettes.
Les petits grippettes. Ah oh, oui. Ben parce que oui. Dans ma tête, j'avais les gremlins, puis les gremlins, c'est comme des petits grippettes dans ma tête. Mais ce que je veux dire, c'est que le règne de la terreur, le règne du doute, le règne de la peur fait en sorte que les gens qui ont peur vont faire donc du cortisol dans leur corps physique, puis en faisant ça, ça va attirer la maladie. Donc, écoute, je vais te dire, j'ai quelqu'un très proche de moi, je dirais pas c'est quoi. Il a passé un test pour le coronavirus, il était tellement pas sûr, il a repassé un deuxième. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Fait que là, c'est comme, regarde, une fois c'est correct, mais deux fois, là, c'est comme, c'est du conditionnement, là, vraiment, là, hardball.
Tu comprends? Ben, le pire, c'est qu'il y en a qui disent que tu peux bien avoir passé le test avec la patente qui va, le Q-tips qui va dans le fond du nez, mais deux jours plus tard, tu peux l'avoir attrapé, si t'es sorti, si t'es allé dans un centre d'achat ou un magasin ou quelque part. Fait qu'il recommence, puis il faudrait que tu le fasses à tous les deux jours, tu sais, ça n'a pas de bon sens.
Donc, puis le test, le gars qui a inventé le test, il disait que c'était pour tester l'ADN, donc avec la membrane pulmonaire, puis que le test n'était pas adapté au coronavirus, puis qu'il y a des gens qui se font faire le test, ils disent qu'ils l'ont, puis ils l'ont pas, puis qu'ils l'ont pas, qu'ils l'ont. Évidemment, les chiffres sont tronqués, les tests sont pas bons, les morts, il y en a beaucoup moins. Il disait une pandémie avec des millions de morts, il n'y en a même pas eu comme 300 000, c'est vraiment rien. Puis mondialement parlant, il y en a beaucoup plus qui meurent de H1N1 puis de l'influenza qui meurent du coronavirus. Pourtant, ils ont fait en sorte que l'économie soit 10 ans derrière le setback avec le produit national brut puis le produit intérieur brut, là. Puis il y a des milliards de dollars qui ont été perdus, là. Et ça, c'est au profit. Quand il y a quelqu'un qui perd de l'argent, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent. On regardera qui a fait de l'argent là-dedans. C'est-tu les Chinois? C'est-tu les banques? C'est-tu les Rothschild, les JP Morgan, Goldman Sachs? On ne sait pas. Mais c'est sûr et certain qu'il y en a qui se sont mis plein les poches, puis ils vont continuer à devenir encore plus d'êtres humains, puis ils vont sortir un vaccin, ils vont dire « Ah, vous êtes obligés d'avoir le vaccin. » Mais là, je m'excuse, là, mais il y a des lois fondamentales sur la liberté qui font en sorte qu'on ne peut pas imposer quelque chose, surtout si c'est négatif à long terme, puis que c'est pour contrôler les personnes.
Oui. Il y a un avocat très connu, internationalement connu, puis spécialiste dans les constitutions, les droits de l'homme, qui s'appelle Rocco Galati. Et c'est sûr qu'il est mis en cause là parce qu'il travaille là-dessus. Il est appuyé par beaucoup d'organisations, surtout qui viennent du Québec. Ce qui est intéressant, c'est que le Québec semble être celui qui porte le flambeau actuellement pour dire « Attention, mesdames et messieurs du monde entier, restez réveillés parce qu'on est en train d'empiéter sur votre vie privée, sur votre liberté d'action, sur votre vie, votre santé physique, oui, et mentale aussi. » Alors, tout ça, ça se joue dans les semaines et les années, les mois qui viennent. Moi, je me rends compte que ça déboule rapidement, puisque moi, je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent très vite. Et ça, j'aimerais ça te garder avec nous, Michel Labrèche, pour la deuxième heure qui va être réservée aux abonnés du Club Créé, parce que là, j'ai des sujets intéressants à aborder, mais je pense que si tu es bien branché, on va aller dans des aspects qui sont peut-être indigestes pour l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de certaines choses sans prendre des précautions, parce qu'on dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants. Il ne faut pas expliquer des choses quand ce n'est pas le temps. Moi, l'automne dernier, j'étais à Québec en conférence. Et s'il avait fallu qu'à la fin du mois de novembre, je dise aux gens, vous savez, dans quelques semaines, dans quelques mois maximum, vous allez être confinés dans vos maisons sans sortir de la maison. Les écoles vont être fermées, les centres d'achat vont être fermés, les gens m'auraient ri en pleine face. Alors, je leur demandais tout simplement, si moi, j'ai déjà vu un film, j'ai vu le film du futur, quand j'avais 13 ans, et là, je leur demandais, est-ce que, si vous voulez, je peux vous dire la fin du film ou la suite du film? Aimez-vous mieux savoir un film avant d'aller le voir ou vous aimez mieux aller le voir? La majorité des gens ont levé la main en disant, moi, j'aime mieux aller le voir, je veux pas savoir la suite de l'histoire. Bon, mais j'ai dit, d'abord, je me tais. Puis surtout que c'est un film catastrophe, mais c'est un film catastrophe, oui. Mais il y a un virage, il y a un revirement qui arrive à un moment donné. Bernard était très au courant de ça, et j'ai un entretien avec Bernard à te faire entendre et avoir tes commentaires sur, justement, les événements qui s'en viennent et les êtres, comme tu l'as très bien expliqué déjà, là, tu l'as très bien expliqué, on passe de la cinquième race à la sixième race, c'est-à-dire la cinquième étape de l'humanité. Et on va rencontrer maintenant et bientôt des êtres d'une nouvelle génétique, si on pourrait dire, d'un nouveau modèle. Tu sais, quand on change de modèle d'automobile, là, on va passer à quelque chose de refresh, un renouveau, une mise à jour, si tu veux, de l'humanité, pour faire face à la nouvelle planète qui va être tellement dénaturée dans quelques années que ça prend des êtres humains qui vont être adaptés à quelque chose de totalement différent. Et fonctionner d'une manière différente. On l'a vu, l'économie va tomber, le plan militaire ne fera plus peur à personne, à moins qu'on s'en serve, puis que là, on s'envoie des bombes atomiques par la tête, qu'on détruise finalement tout. C'est pas intelligent, là. Hein? Il y a quelque chose en quelque part qui manque en quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va, ou il y aura des gens qui vont avoir assez de conscience pour dire, hey, on n'est pas pour tout démolir, on va tout perdre. Mais l'être humain va se transformer. Et là-dessus, Michel, j'aimerais ça qu'on s'entende, qu'on se parle là-dessus. Puis en écoutant encore des extraits de Bernard, qui a consacré une heure à parler strictement de ce futur dans la période qu'on commence à vivre. En 1979, on était loin de parler de 2020, puis 2023. Il y en a qui pensaient qu'on serait détruit avant ça avec le bug de l'an 2000 ou qu'il arriverait quelque chose en 1984. Bon, il y avait des prophéties qui annonçaient des catastrophes. Mais aller jusqu'à 2020, on savait que les médiums, à partir de 2012 à 2020, les médiums étaient comme incapables d'aller sonder ce qui était prévisible ou qu'on pourrait aller voir dans le futur. Je ne sais pas si tu te souviens de cette étape-là. Hein? On parlait du calendrier Maya, là, décembre 2012, la fin du calendrier Maya. Et à partir de là, comme si les médiums ne pouvaient pas passer un mur, là, tout était occulté, c'était caché, c'était voilé. Et là, c'est en train de se dévoiler avec l'apocalypse qui arrive à grands pas, très rapidement d'ailleurs. Alors, on se retrouve-tu dans le Club Créé bientôt, Michel?
Oui, on s'en va dans le Club Créé.
Merci. Nous venons de voir et d'assister au vidéo rendia de la semaine du samedi 6 juin 2020, le 6 du 6e mois 2020, le numéro 23. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, animation, conception et montage Richard Glenn. Invité Michel Labrèche, auteur conférencier, avec M. Bernard de Montréal. Eh bien oui, c'est un rendez-vous dans le Club Créé pour aller encore plus loin dans un aspect qui va intéresser la grande majorité de tout le monde, les événements qui doivent arriver de maintenant 2020 à la suite, jusqu'à 2023 en particulier et ensuite. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia et la version MP3 par Jean-François Poulain. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, à la régie Spirale. Qui est donc cette belle jeune fille, cette femme, au cou de M. Michel Labrèche? Oui, elle ressemble à Ray, n'est-ce pas, de La Guerre des Étoiles. C'est un rendez-vous dans le Club Créé à tout le monde. Vous ne serez certainement pas déçus des propos de Bernard de Montréal et des commentaires donnés par M. Michel Labrèche. Et voici des suggestions complémentaires avec notre rencontre d'aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver, à bientôt.